Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Chers frères et sœurs, juste quelques mots pour préparer nos cœurs au sacrifice du Christ sur l'autel. Permettez-moi de revenir un instant sur notre évangile, passage bien connu des trois paraboles de la miséricorde chez saint Luc, qui viennent nous montrer, nous manifester la bonté de Dieu, la bonté du cœur de Dieu, un cœur comme celui d'un père pour son enfant, qui se penche sur la douleur de son enfant, ou même beaucoup plus loin, la douleur d'une mère qui se penche sur la souffrance de son petit. En effet, Dieu a un cœur qui se penche sur la misère de l'homme, d'où finalement cette expression de la miséricorde, misericordia. Cette misère n'est pas tant matérielle, notre misère n'est pas finalement tant matérielle que de l'ordre de notre attachement à Dieu. Et la plus grande misère, notre plus grande tristesse, je me permets de le dire, vient peut-être plus de perdre notre objectif, de perdre le sens de la vie, de perdre notre quête du bonheur, qui est finalement la vie heureuse, mais qui est au loin finalement de voir Dieu. Notre plus grand bonheur, pour reprendre une parole de saint François de Sales, serait finalement d'arriver pour toute notre vie à partir de là où l'on est pour arriver là où on doit aller. Vous me direz certainement c'est du bon sens, c'est vrai, mais ce n'est pas forcément si évident que cela. Il faut encore avoir l'humilité de savoir d'où l'on part, de savoir où l'on est actuellement. Notre vie quotidienne, si elle est habitée par de nombreuses joies, des joies simples d'accomplir notre devoir d'État, nos missions, notre vocation, elle est, si l'on peut dire, entachée, abîmée, attristée de ne pas toujours y parvenir. Et notre plus grande tristesse, pour reprendre les mots de saint Paul, serait de ne pas parvenir à accomplir le bien que nous désirons faire, et pour lequel nous sommes aussi taillés, et parfois de ne point arriver à éviter le mal que nous haïssons, que nous rejetons, que nous ne désirons pas. Là, finalement, notre plus grande tristesse, bien au-delà de nos problèmes matériels, même peut-être de nos problèmes de santé. C'est tout le sens de notre parabole. Je le résumerai à une histoire de maison. Les deux fils appartiennent à une même maison, à la maison du père. Ils sont tous les deux dans la maison. D'une certaine mesure, j'aimerais dire qu'ils ne sont pas encore tout à fait de la maison. Ils sont tous les deux dans la même maison du père. Ils sont en tout cas fils biologiques du même père. Et on pourrait donner un nom à cette maison. Comment s'appelle cette maison ? Cette maison, je l'appellerai tout ce qui est à toi, tout ce qui est à moi, pardon, est à toi. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, tout ce qui est à moi est à toi. C'est une maison toute particulière, c'est-à-dire que c'est une maison à la dimension du cœur de Dieu. C'est le lieu même de la circulation d'amour parfaite, de la relation d'amour parfaite entre le père et ses enfants, entre les enfants et leur père. Parce que Dieu veut tout nous donner, tout ce qui est à moi est à toi. Cela veut dire que Dieu veut nous communiquer son propre être, sa propre divinité, sa propre plénitude, la totalité de ce qu'il est comme Dieu. Tout en restant Dieu, tout en restant aussi pour ma part créature, chacun responsable et avec le poids de sa responsabilité, chacun ainsi pour être heureux habitant dans cette maison. Je voudrais peut-être dégager trois écueils, trois difficultés pour vivre dans cette maison. Le premier écueil, si l'on peut dire, ce serait de croire qu'on peut jouir de tous les biens de la maison sans habiter chez le Père, ou en tout cas en habitant à l'extérieur. C'est le cas peut-être du plus jeune frère qui réclame sa part d'héritage et d'une certaine manière qui reconnaît qu'actuellement, il n'a pas encore l'héritage, il ne possède pas encore la maison, alors que concrètement, tout ce qui est au père est déjà à lui. Il réclame sa part d'héritage et il reconnaît une certaine grandeur de ce qu'il est. Il reconnaît sa beauté, son humanité, mais il veut s'en servir pour son propre bien, pour son propre plaisir. Il ne veut plus dépendre d'une maison, il ne veut plus dépendre d'une autorité, il ne veut plus dépendre d'une paternité. Il veut son indépendance. Un peu, vous me pardonnerez l'image, un peu grossière, mais le passage à Paris il y a quelque temps, la chose m'a frappé, un peu comme une Autolib, vous savez, ces voitures électriques qui sont branchées à des bornes. Eh bien, en effet, comme une Autolib qui voudrait acquérir sa liberté, son indépendance, c'est-à-dire vivre loin de sa borne de recharge. Mais certes, ça marche, certes, c'est agréable et c'est plaisant comme système, c'est très pratique, mais à un moment donné, un certain manque d'énergie vient se rappeler à cette chère auto pour lui dire qu'elle doit dépendre d'un lieu de ressources, un lieu où, pour revenir sur notre parabole, où il y a la nourriture quotidienne, il y a l'énergie quotidienne. Ce n'est pas qu'une question d'avoir du pain, parce que la maison est celle du pain, le lieu où il ne manque de rien, c'est le lieu finalement où tout nous est communiqué, toute notre capacité de vie, toute notre capacité à aimer et à vivre pleinement nous est donnée. Le deuxième écueil, ce serait de croire qu'il faut être parfait, comme le Fils aîné. Le grand danger de notre vie spirituelle est le désir de perfection. Alors que seul Dieu est parfait et qu'il nous suffit finalement d'habiter chez lui, d'habiter en lui pour goûter cette perfection. Car lui-même veut nous la communiquer. Alors, d'une certaine manière, pourquoi se fatiguer ? Pourquoi se préoccuper et perdre tant d'énergie à la chercher par nous-mêmes ? Le danger serait de devenir de bons pratiquants, comme le frère aîné. J'ai bien obéi, j'ai été sage, j'ai fait mes heures, j'ai fait mes prières, j'ai fait aussi mes aumônes. Alors je mérite. Je mérite d'avoir mon salaire pour le partager avec mes amis. En soi, ce n'est pas mauvais, c'est juste d'avoir son salaire, d'avoir ce qui nous revient. Mais d'une certaine manière, le fils aîné perd sa vocation. Il réagit comme un ouvrier, comme un salarié, mais surtout pas comme un fils. Alors que la perfection, elle, s'acquiert en étant de plus en plus de la maison, dans une plus grande dépendance du cœur, dans une réelle filiation. Mais on le verra, dans une progressive autonomie. Le troisième écueil, si l'on peut dire, c'est croire que Dieu ne nous veut pas forcément que du bien. Cette espèce de doute permanent que nous mettons sur Dieu, comme un grand horloger, comme un grand organisateur qui châtie et qui règle le monde selon des règles que nous ne comprenons pas et que de toute manière nous avons bien mérité ce qui nous arrive. Cette manière de voir, je me permets de vous le dire, est tout à fait erronée et contraire à l'amour de Dieu. C'est là toute la tentation du serpent dans la Genèse quand il s'adresse à Ève. Dieu vous a tout donné et c'est extraordinaire. Vous êtes même extraordinaire, Adam et Ève, tous les deux. C'est beau cet amour de Dieu, cette communication d'amour de Dieu qui veut tout vous donner et communier totalement avec vous. Oui, c'est extraordinaire. Mais le seul problème, dit le serpent, c'est que vous n'êtes pas encore des dieux. Et Dieu vous cache des choses. Dieu vous cache des choses. Ayez le doute et il faut que vous puissiez acquérir ce qui vous manque encore. Comme si il manquait quelque chose à Adam et Ève, eux qui avaient tout. Et le fruit, c'est qu'ils sont réduits en esclavage. Ils sont réduits en esclavage, ils sont réduits à mourir. Prenons alors la liberté, dira le serpent, prenez la liberté d'être comme des dieux, devenez totalement indépendante pour être comme des dieux et avoir une certaine toute-puissance. Pour éclairer, je dirais, ce dernier point, je reprendrai une parole de saint Irénée. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est de voir Dieu. La gloire de Dieu, c'est-à-dire la grandeur de Dieu, ce qui fait que Dieu est bon, vrai, grand, noble. Voilà, si bon pour nous et si amoureux pour nous, si paternel. La gloire de Dieu, c'est-à-dire la grandeur de Dieu, c'est d'une certaine manière, c'est l'autonomie de l'homme. Ce n'est pas l'indépendance. Dieu, parce qu'il nous aime comme un bon père vis-à-vis de son fils, son enfant bien-aimé, c'est que l'homme vive pleinement, pleinement de sa propre grandeur, qu'il s'épanouisse dans sa vocation, qu'il jouisse de tous les biens qui lui ont été accordés depuis sa naissance, par ses parents, par tous ses éducateurs. Dieu veut que nous trouvions notre propre chemin, tout en partant de sa maison et en allant vers sa maison. C'est comme ce papa qui apprend à son fils à marcher pour que cet enfant se détache de lui, certes. Et c'est vrai que si l'enfant prend de l'autonomie, et cela est heureux pour l'enfant, eh bien, seul le lien de la filiation restera, le lien avec sa maison. Il ne sera certes plus dépendant de cette servilité, si l'on peut dire, de la main du père vis-à-vis de la main de l'enfant, mais il sera sûr de garder une fois pour toutes cette filiation divine. Je le répète, Dieu veut notre bien. Dieu veut tout nous communiquer. Et notre espérance, c'est que le meilleur est à venir. Dieu veut nous partager sa propre divinité pour que nous portions du fruit et que ce fruit demeure. Ce fruit, c'est la joie, la paix, c'est l'endurance, la persévérance dans les tempêtes, dans ce qui parfois est le plus dur. C'est un peu comme des racines que rien ne peut arracher, ni les tempêtes, ni les contradictions, ni les persécutions, ni les échecs, ni la pauvreté. C'est là finalement le chemin des béatitudes, heureux les pauvres, heureux les affamés, heureux les affligés. Car notre vie n'est pas bâtie sur des moyens d'indépendance, mais sur l'autonomie. L'autonomie d'un cœur qui sait être heureux, une fois attaché à son Seigneur. Une filiation qui sait de quelle maison elle est. Alors, pour cela, soyons concrets, aimons notre famille, aimons nos parents avec respect et révérence, mais aussi, et en partant souvent de là, aimons Dieu avec la piété filiale qui lui est due. Prions-le, parlons-lui, renouvelons quotidiennement cette filiation. Sinon, elle s'éteindra petit à petit et nous trouverons notre indépendance. Alors, demandons à la Vierge Marie, notre mère et notre reine, qu'elle veille sur notre maison, qu'elle veille sur notre filiation, qu'elle nous donne la force et l'humilité de revenir sans cesse au lieu de notre premier amour, la maison de Dieu. Qu'elle nous rappelle sans cesse que Dieu est miséricorde, que son cœur est séduit, est attiré, aimanté par notre misère et nos chutes. Nous n'aurons qu'à désirer revenir vers lui sans cesse pour nous retrouver instantanément dans ses bras, demeure de notre filiation. N'oublions jamais d'où nous partons pour arriver sûrement là où nous devons aller, nous qui venons du cœur de Dieu et qui retournons petit à petit. Amen.